Réplique face à la corrida avec Elisabeth de Fontenay et Francis Wolff. Le 18 septembre dernier, j'ai assisté dans les arènes de Nîmes à ma première corrida. Mal m'en a pris, car ma présence, ayant été signalée par Francis Marmand dans le journal Le Monde, j'ai reçu d'un auditeur domicilié à Toulon la missive que voici. « Monsieur, j'apprends que vous étiez à la Feria des Vendanges. C'est votre droit. » Écouteur attentif de votre émission du samedi, y compris son générique, je m'abstiendrai désormais en soutien et souvenir de Théodore Monod. Regret et profonde désillusion pour une personnalité que j'apprécie. Salutations navrées. PS, je ne lis plus les articles de Marmande, celui-ci a échappé à ma vigilance. On le voit jusque dans la rancœur de ce post-scriptum envers un journaliste talentueux mais aficionado, c'est un sujet ultra sensible que je me risque aujourd'hui à aborder avec deux philosophes, Elisabeth de Fontenay et Francis Wolff. Et avant que la première ne me confonde, je me tournerai vers le second pour lui demander en quelque sorte de plaider ma cause. Moi qui m'attendais à être choqué, voire révulsé par le spectacle tauromachique et qui a été, à mon corps défendant, ébloui, car j'ai vu toréer José Thomas. Que répondriez-vous, Francis Wolff, à cette lettre, moins courroucée encore que désolée ?
Merci à l'infique Claude de m'avoir invité à cette émission. Je m'étais juré de ne plus parler en public de corrida, parce que la lettre courroucée que vous avez reçue, j'en reçois des bien plus violentes et bien plus agressives, et on me traite évidemment de tous les noms de la terre, tortureur, et celui-ci étant évidemment le plus faible des adjectifs. Que dire pour votre défense ? Eh bien, beaucoup de choses évidemment, mais d'abord, je dirais ceci. J'ai découvert, un peu par hasard, comme vous, la corrida quand j'avais 18 ans. Rien ne m'y préparait, ni dans ma famille, ni dans mes origines, tout ce qu'il y a de plus parisienne. Et je ne savais même pas qu'il y avait des corridas en France, et je pensais, comme la plupart des gens, que ça n'existe pas, ou il n'y a pas de mise à mort en France, etc. Je l'ai vu tout à fait par hasard. Et quand je dis par hasard, c'est que, je le précise tout de suite, vis-à-vis d'Elisabeth de Fontenay, vis-à-vis de vous-même, j'ai horreur de la violence. Je ne pourrais pas souffrir, je ne pourrais pas voir souffrir un animal familier ou même un animal dans la nature. Et ce que j'ai vu ne ressemble pas à ce que les gens en général imaginent quand ils n'en ont jamais vu. Je dirais simplement ceci, cette expérience a bouleversé ma vie. Elle m'a apporté depuis la corrida des bonheurs auxquels je ne peux comparer que ce que m'a apporté la musique. Elle a bouleversé ma vie affective, ma vie esthétique, je dirais aussi ma vie éthique, je dirais presque ma vie conceptuelle. Donc nous allons en reparler. Je dirais simplement la chose suivante. Nul aficionado, que je connaisse du moins, ne va aux arènes pour voir souffrir un animal. Nous allons aux arènes pour admirer. C'est le premier et le dernier des sentiments que nous allons chercher dans l'arène. C'est le plus beau des sentiments intellectuels et esthétiques, l'admiration. L'admiration pour une bête qui combat, l'admiration pour un homme qui risque sa vie dans ce combat. C'est tout ce que je dirais pour l'instant.
Elisabeth de Fontenay.
Bon, je voudrais d'abord faire état d'un certain nombre de points d'accord que j'ai avec Francis Wolff pour que notre discussion n'aille pas n'importe où. Je suis d'accord avec lui pour critiquer la philosophie éthique et juridique anglo-saxonne, Peter Singer, Francione, Tom Regan. Ce n'est pas du tout cette philosophie-là qui est à l'origine de mon engagement pour les animaux. Je rappelle que j'ai écrit sans offenser le genre humain, qui me distingue profondément des animalistes, comme on dit, ou des animalitaires, comme on veut.
Animalitaires et, qui vont jusqu'à une critique du propre de l'homme, c'est ça?
Voilà, alors justement,
rejet du propre de l'homme.
Quand je me fais traiter de spéciste, j'accepte d'être traité de spéciste, je suis spéciste. Donc, encore un accord avec Francis Wolff contre l'uniformisation de la culture, l'aseptisation générale, d'accord aussi avec lui sur l'opéra, la musique, le spectacle total. Maintenant, pourquoi la corrida? Pourquoi est-ce que j'ai signé, il n'y a pas très longtemps, l'appel du CRAC, Comité radicalement anti-corrida? Eh bien, parce que j'ai découvert, vous savez, la corrida n'est pas du tout l'objet de mes réflexions. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est le statut des animaux de rente, c'est-à-dire des animaux de boucherie. Et Francis Wolff, il ne faut pas opposer les adversaires de la corrida aux adversaires de l'élevage et de l'abattage industriel, parce que ce sont les mêmes. En tout cas, en ce qui me concerne, si j'ai tellement tardé à m'intéresser à la corrida, j'ai assisté à une corrida dans ma jeunesse. Ça m'a laissé assez indifférente. J'ai trouvé ça un peu ridicule, mais passons. Si j'ai mis ce temps, je n'ai pas eu la chance de voir José Thomas, Alain. Bon, voilà, j'ai probablement vu des toreros plus médiocres et des taureaux plus médiocres aussi. Donc si j'ai pris la décision, qui a été difficile à prendre pour moi, de signer contre la corrida, c'est parce que j'ai appris qu'il y avait des écoles de toreros, qu'on apprenait à des enfants à torer, et que même, je ne sais pas si ça se passe dans ces écoles officielles protégées par l'éducation nationale, mais je sais que par ailleurs, on fait torer des enfants sur des veaux et mettre à mort des veaux. Et j'ai trouvé ça absolument insupportable. Et c'est ça qui a déclenché ma signature. Parce que mon humanisme à moi, car je suis humaniste, moi aussi, mon humanisme à moi, il est formé par Plutarque et Montaigne, à la philanthropia, cette philanthropia dont Plutarque dit qu'elle est amour des animaux en même temps que des hommes et que apprendre aux enfants à être doux, bienveillants avec les animaux, c'est un apprentissage, c'est une véritable païdéia, c'est un apprentissage d'humanité.
Francis Wolff.
Bien, je suis content, Elisabeth, que nous ayons beaucoup de points d'accord, et j'en ai un considérable avec vous, et peut-être avec ceux qui me considèrent comme leur ennemi. Nous avons le même adversaire, l'élevage industriel. Les animaux de rente, comme vous dites, ou plus exactement, certaines filières des animaux de rente. Et je crois qu'il n'y a aucun aficionado connaissant ce qu'est un taureau, admirant cet animal dans son habitat naturel, qui puisse cautionner l'élevage industriel, la réduction de l'animal à une chose. C'est exactement le contraire de l'éthique de la corrida. Et ce n'est pas simplement contraire à son éthique, c'est contraire à son existence même. Je rappelle qu'un taureau de combat est élevé pendant 4 ans dans des conditions qui sont le plus proches d'un habitat naturel. Le veau sous la mer, c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe pour les animaux de rente. Je rappelle que ces animaux, que sur, disons, 500 têtes de bétail qu'il y a dans un élevage de taureaux de combat, seuls 6% finiront dans l'arène. Le reste ira malheureusement à l'abattoir plutôt. Je rappelle que les conditions de vie des taureaux préservent une forme de liberté pour eux qui est essentielle à ce qu'on appelle en espagnol leur bravura, qui ne signifie pas évidemment une qualité éthique quelconque, mais qui signifie leur agressivité naturelle, innée, qui se constate dès la naissance. Cette liberté est absolument essentielle et elle est la base même du comportement du taureau dans l'arène. Donc nous avons, je dirais que je suis aussi écologiste qu'il est possible, défense de la biodiversité, défense de l'habitat naturel, défense de l'élevage extensif. Voilà la base de la corrida.
Mais alors attendez, j'aurais moi-même une question à poser à Elisabeth de Fontenay, mais sur ce fait précis qu'Elisabeth de Fontenay rapporte, est-il vrai que des enfants s'entraînent avec des veaux. Alors, cela existe-t-il alors, et jusqu'à quel point?
Alors, je réponds sur les faits. Il y a en effet un certain nombre de ce qu'on appelle d'écoles taurines qui n'ont rien à voir avec l'éducation nationale. Ce sont des écoles tout à ce qu'il y a de plus privées, comme des centres de loisirs, dans lesquels, qui sont d'ailleurs, dans de très nombreux cas, d'excellentes écoles d'intégration pour des enfants. Je connais nombre d'enfants ou d'adolescents qui étaient un peu en perdition et qui ont été dans ces écoles taurines, qui ont appris essentiellement. Et vous savez, les premières choses qu'on apprend aux enfants dans cette école, dans ces écoles, c'est un certain comportement éthique, un certain respect d'eux-mêmes, une certaine façon de se comporter, une certaine façon de se comporter et de respecter l'animal, de respecter l'animal, de respecter l'animal dans son animalité. C'est extrêmement tardivement que les meilleurs d'entre eux peuvent aller dans ce qu'on appelle des tientas pour s'entraîner face à des veaux. Et le fait que dans des écoles taurines, on fasse tuer des veaux à des petits-enfants est un fantasme. Seuls certains qui ont été sélectionnés pendant plusieurs années pourront affronter de vraies bêtes et seuls certains d'entre eux iront jusqu'à des noviades dans lesquelles ils auront éventuellement à les mettre à mort.
Et alors, Elisabeth de Fontenay, vous voulez dire quelque chose?
Oui, parce que c'est très paradoxal d'entendre parler de respect en permanence, respect du taureau. Quand vous dites à la fin de votre discours de Séville, emmenez vos enfants, emmenez vos petits-enfants à la corrida, c'est vraiment pour leur apprendre le respect.
Oui, mais...
Mais c'est tellement paradoxal que c'est inaccessible
mais en même temps...
à des gens qui ne sont pas des aficionados, Francis Wolff.
Je vais répondre.
Allez-y.
Qu'appelle-t-on le respect pour un animal? C'est le respect d'abord de sa nature, c'est le respect de son comportement, c'est le respect, et je vais vous dire, le fondement éthique de la corrida, vous le savez aussi bien que moi, Elisabeth, c'est tout à fait le contraire de la réduction de l'animal à une chose, et c'est aussi le contraire de la réduction, et nous sommes d'accord sur ce point, de la réduction de l'animal à une personne. C'est le respect de son animalité. Et il y a peu de lieux dans notre monde où l'animalité est respectée comme animalité. Et je vais vous donner la meilleure preuve du respect. C'est que dans la corrida, on ne se donne le droit de tuer l'animal respecté qu'en risquant soi-même sa vie. C'est ça le respect. Je ne peux tuer l'animal que si je risque moi-même ma vie. Et vous comparez avec toutes les autres formes de meurtre animal, et il y en a énormément, dans lesquelles personne ne risque sa vie, que ce soit dans les rites religieux ou que ce soit dans ces assassinats à la masse qu'est l'élevage industriel. Il n'y a pas, évidemment, le respect de l'animalité comme tel.
Alors justement, Elisabeth de Fontenay, vous parliez de Plutarque et de Montaigne, et de cette douceur et de cette bienveillance qu'il faudrait enseigner aux enfants, précisément, envers les animaux. Mais tous les animaux ne sont pas faits sur le même moule. Et si je comprends bien, le taureau, bravo, est doté d'une hostilité innée envers tout étranger et notamment l'homme. C'est un animal qui veut se battre, c'est un animal qui veut tuer. Alors, il n'y aurait pas de sens de dire qu'on va enseigner la douceur vis-à-vis d'un animal avec lequel un rapport de ce type ne serait pas possible. Un taureau affronte les tigres, affronte les éléphants, affronte les lions. Il est dans l'affrontement perpétuel. On est quand même amené à tenir compte de cette réalité dans le rapport généraux que nous avons avec les animaux.
Je crois connaître un peu les taureaux puisque j'ai été enfant pendant la guerre dans une ferme en Normandie et que quand venait le taureau dans la cour de la ferme, le taureau qu'on fait venir de l'extérieur. C'était la grande prudence, sinon la grande terreur dans la cour de ferme. Bon, je sais que le taureau est un animal qui peut être dangereux, mais l'instinct de fuite du taureau est plus fort que l'agression. Bon, alors maintenant, parlons du taureau bravo. C'est un pur résultat de la zootechnie. Vous êtes d'accord avec ça? Ce avec quoi vous ne donnez pas être d'accord, Francis Wolff, et là, nous allons nous allons parler fait contre fait, c'est que même si vous avez vu, vous et Alain Finkielkraut, des corridas splendides avec des taureaux extraordinairement courageux, il reste que dans beaucoup de corridas, les taureaux ne veulent pas combattre, les taureaux s'affaissent. Le taureau n'est pas nécessairement un animal agressif. Et j'ajouterais à ceci que des vétérinaires et même des vétérinaires aficionados ont dénoncé le fait qu'il y avait dans les arènes des taureaux qui arrivaient malades. Et de toute façon, ils ont voyagé dans des conditions de contention, dans des caissons qui les ont complètement ahuris, abrutis. Et quand ils arrivent sur l'arène, quand ils viennent du toril, ils viennent de la nuit, ils viennent du noir. Et ce qui surgit dans l'arène, c'est vraiment l'histoire de l'allégorie de la caverne, celui qu'on force à voir le soleil, la lumière de face et qui ne peut pas le supporter. Il débouche dans l'arène, dans cette lumière aveuglante, avec cette foule, et ils sont non pas pour moi des taureaux bravos, mais des taureaux furioso, je parle italien là, des taureaux furieux, des taureaux complètement stressés, qui sont des bêtes aveugles. Et le respect pour cette bête aveugle, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, dans la mesure où, en plus, le picador lui enfonce sa pique, je ne sais pas si ça se fait encore, à un certain endroit de la nuque, pour lui faire baisser la tête. Et on dit en espagnol « humilier le taureau ». Humilier le taureau, Francis Wolff. Le respect où il est, là. Humilier le taureau. Les banderilles qui le font saigner, qui s'agitent dans ses muscles et dans ses nerfs chaque fois qu'il fait un mouvement. Où est le courage du torero alors qu'il a laissé ou qu'il a fait blesser le taureau bravo, le prétendu taureau bravo, pendant quasi 20 minutes, puisque le troisième tertio intervient, disons, dans les 5 dernières minutes ou dans les 10 dernières minutes. Les 10 dernières minutes. Où est la bravoure? Où est le respect?
Vous avez dit beaucoup de choses, Elisabeth. Je termine en disant, vous n'aimez pas
qu'on parle de torture. Moi, je parle de torture. Et je vous assure, Francis Wolff, que dans ma bouche, ce n'est pas faire insulte au félaga torturé par la Gégène que de dire qu'on torture le taureau.
Bon, alors je répondrai sur ce dernier point, qui est évidemment un point extrêmement sensible, parce qu'il ne faut pas galvauder les mots. Je vais répondre très calmement sur les faits qui sont que vous avez énoncés précédemment. D'abord, taureau bravo. Vous avez parlé des taureaux de ferme. Le taureau de combat n'a rien à voir avec les taureaux que vous avez pu connaître dans votre enfance. L'élevage de taureaux, des taureaux sauvages, a commencé à la fin du XVIIIe siècle. Et depuis, en effet, le taureau, la bravoure du taureau, est le fruit conjugué d'une certaine nature originellement agressive des taureaux sauvages qui pâturaient de façon libre en Espagne, et en partie, en effet, le fruit de la sélection qui tend à sélectionner. Comme vous savez, le taureau est un herbivore, donc c'est essentiellement un animal territorial, ce n'est pas un prédateur, et donc les sélections ont eu pour objet de conserver ce qui, dans cet instinct de défense du territoire, se manifestait d'une façon offensive, c'est-à-dire par la charge qui se manifeste dans le champ depuis la naissance. Dès lors que le taureau se trouve menacé sur son territoire. Et c'est exactement les conditions qu'il retrouve lorsqu'il sort dans l'arène. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Le taureau est stressé pendant le transport. Le taureau, de la même façon que toutes les bêtes sont stressées pendant le transport, ce qui est sans doute pour un animal, surtout pour un animal libre, pire que ce qu'on appelle la douleur. Le stress est bien pire pour un mammifère que la douleur. Et les mesures de cortisol qui ont été faites par les vétérinaires au cours de la corrida montrent que le stress baisse, au contraire, que le stress est maximum quand le taureau sort. Vous l'avez raison, à ce moment-là, et que les pics, les banderilles font que le stress baisse parce qu'il va transformer, je ne suis pas vétérinaire, mais grâce à la production de bêta-endocrines qui vont anesthésier en quelque sorte sa douleur et la transformer en effet en agressivité, qui est cette agressivité naturelle. Un point extrêmement important. Vous avez parlé des pics. Vous avez parlé de torture. Vous avez osé parler de torture. Si vous torturez un animal, quel qu'il soit, que fait-il ? Il fuit. Il fuit à l'autre bout de l'arène. Vous piquez un taureau. Que fait-il ? Il revient à la pique. Il revient à la pique deux fois, trois fois, quatre fois. Qu'est-ce que c'est le signe de quoi ? Tout vétérinaire, tout éthologue vous dira que c'est parce qu'il a ressenti pendant une seconde cette douleur que par un certain nombre de phénomènes endocriniens, il a transformé cette douleur en agressivité et qu'il revient à la charge. S'il était torturé, la corrida n'aurait non seulement aucun sens, aucune valeur, mais évidemment personne n'irait le voir puisque la base même de la corrida, c'est que le taureau attaque, attaque, attaque en permanence. Et quand vous dites que le torero ne prend pas de risque, bon, on parlait de José Tobá, il a reçu deux fois l'extrême onction, il a frôlé plusieurs fois la mort et il prend des risques insensés à chaque corrida.
Oui, c'est un mot là-dessus, mais ce sont simplement des citations. Il est vrai que j'ai vu José Tobá. Et José Tobá illustre tout à fait cette phrase de Michel Léris dans Le miroir de la tauromachie. Le torero, droit comme un cri, tout près de lui le souffle et tout autour la rumeur. Mais en oubliant, et José Tobá a cette phrase, « En partant, je laisse mon corps à l'autel. » Et j'ai lu dans un livre de Bergamine une phrase d'un des grands toreros du début du XXe siècle, Belmonte, « Si tu veux torer bien, oublie que tu as un corps. » Ou bien cette phrase de Luis Miguel Dominguín, « Quand le torero s'habille de lumière pour entrer dans l'arène, il n'a plus peur de mourir, car il est déjà mort, sinon il n'entrerait pas. » Et ce qui est très frappant, c'est que précisément, le torero ne bouge pas lorsque le taureau charge, alors que tout le monde bougerait parce que c'est le réflexe de conservation. Donc, que le taureau souffre, c'est vrai, mais j'ai du mal à imaginer le torero, dans la mesure où il s'expose à un risque pareil, j'ai du mal à l'imaginer comme un tortionnaire. Elisabeth de Fontenay.
Écoutez, ce que Francis Wolff présente comme l'agressivité du taureau bravo, du taureau, je rappelle, zootechnicisé, et dont on a développé les capacités d'agressivité et on a créé les capacités d'agressivité, moi je vois ça comme une passivité. Et cette histoire d'endomorphine qui fait qu'il ne souffre pas, il attaque, c'est pour moi la plus grande passivité. Et je redis que, aussi courageux que ce soit le torero, parce que évidemment chacun de nous peut s'identifier au torero, à ce danger du taureau qui fonce, mais aussi courageux qu'il soit et aussi respectueux qu'il soit de son taureau, il reste que ce taureau est épuisé par le sort qu'on lui fait subir dans les deux premiers tertiaux. Et quand il arrive au troisième tertio, au troisième tiers, en général, l'estocade a lieu, le taureau à genoux. À genoux. On tue un animal à genoux. Où est le respect ? Où est le respect du taureau bravo ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cet usage de concept éthique et par ailleurs Francis Wolff de concept stoïcien, comme si le taureau partageait la même vertu de courage que le torero. Je ne comprends pas cet usage-là de vos concepts philosophiques.
Alors, juste un point de détail, aucune estocade ne se fait à taureau agenouillé. C'est interdit, ça n'est pas possible, ça n'a pas de sens. L'estocade se fait lorsque le taureau est cadré, quand en effet il est immobile, c'est vrai, les quatre pattes à angle droit, et à ce moment-là, c'est le geste à la fois le plus risqué pour le torero, et la minute de vérité, comme on dit, il doit se jeter entre les cornes et détourner par son chiffon qui s'appelle la muleta, avec sa main gauche, la corne qui doit le frôler. Évidemment, dès que le taureau est à genoux, le torero ne peut plus s'en approcher. son travail, si je puis dire, est fini, et éventuellement un coup de boucherie l'achèvera, c'est ce qu'on appelle par la puntilla. Non, l'estocade doit se faire loyalement, c'est-à-dire à taureau debout, et qui peut en effet blesser le torero. Ce n'est pas un point de détail.
Ce qui doit se faire et ce qui a lieu, vous avez vu les corridas splendides.
Non, j'ai vu près de 1500 corridas, je n'ai jamais vu une seule fois un taureau entrer à matar, c'est-à-dire estoquant avec le taureau à genoux. Ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. C'est interdit, mais ça n'est pas pensable. Mmh. Dès que le taureau est à genoux, le torero doit se retirer. Il ne fait plus. La corrida est terminée. Et éventuellement, ce qu'on appelle un puntillero viendra lui donner le coup de grâce dans les secondes qui suivent. Mais ça n'est pas.
Et dans les coulisses.
Non, pas du tout. Alors là, vous parlez d'autre chose. Les coulisses, c'est au Portugal. Ça, c'est un spectacle cruel. Ne pas tuer le taureau en public, c'est ça la véritable cruauté. Parce que c'est à ce moment-là que le taureau, une fois blessé, sera ramené en coulisses, ni vu ni connu, et dans des conditions incontrôlables, de contention, alors même qu'il ne peut plus combattre, c'est-à-dire exprimer son agressivité pour surmonter sa douleur. À ce moment-là, il sera tué dans les coulisses.
Mais
excusez-moi, Elisabeth, je comprends très bien, puisque vous avez parlé de sensibilité, je comprends très bien votre sensibilité et je comprends très bien la sensibilité des gens qui ne peuvent pas, j'allais dire, imaginer, et a fortiori peut-être voir, mais peut-être pas, a fortiori d'ailleurs, voir un animal blessé et un animal mourant. Accepter notre sensibilité, c'est pas ce que nous voulons voir, c'est pas ce que nous allons voir, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous voyons. Il y a toujours deux façons de décrire le même spectacle. Et je pourrais vous décrire le spectacle du pêcheur à la ligne, non pas comme le paisible, le plaisir paisible de ce brave homme qui va passer son dimanche à pêcher des poissons, je pourrais vous le décrire comme je l'ai vu moi-même à l'âge de 12 ans, comme quelque chose d'abominable dans lequel il y a un hameçon qui va rentrer dans sa bouche et on sait que le poisson souffre, il va agoniser dans le seau pendant de longues minutes et je l'ai vu. Et ce n'est pas comme ça que d'autres voient le pêcheur à la ligne. Acceptez que je vois la corrida avec un autre œil que vous.
Alors, la grande question, c'est la question du spectacle. Comment se fait-il que vous vous référiez à Platon, Aristote, les stoïciens et les épicuriens, plutôt que de vous référer à une certaine tradition dionysienne des Grecs? Parce que, au fond, c'est ça le fond du problème, c'est le spectacle. Mais les spectateurs, ce sont pour moi de purs voyeurs, parce que assister à ces gestes qui sont très gracieux, très beaux peut-être, mais qui restent pour moi des gestes qui infligent des tortures aux taureaux, en tout cas pendant les deux premiers tertiaux, c'est vraiment être là dans une passivité et une jouissance que je trouve extrêmement suspecte. Alors, pour un homme comme vous, extrêmement instruit, extrêmement compétent en la matière, c'est tout à fait autre chose. Vous faites partie de ces gens du premier rang, au bas des arènes, qui, quand on laisse agoniser le taureau, se lèvent pour saluer l'agonie du taureau, alors que les gens d'en haut, plus populaires, moins instruits, s'en prennent au torero qui n'achève pas le taureau. Vous faites partie de ces gens du bas de l'arène. Mais enfin, pour tous les autres, la plupart des autres, c'est une attitude de spectateur-voyeur. Et il y a des textes de bataille sur la jouissance des hommes et des femmes qui sont lamentables. Je ne peux pas vous dire ça en d'autres termes, lamentables. Et votre force, Francis Wolff, je voudrais le dire, c'est d'avoir pris la métaphore de la philosophie pour parler de tout ça. C'est quand même beaucoup plus clean et beaucoup plus soft que ce que nous ont fait lire Léris, Bataille, Hemingway et quelques autres.
Alors, j'aurais un mot sur Hemingway, vous voulez répondre?
Oui, je veux bien répondre.
Les menstrues des femmes.
Non, mais ça, nous verrons.
Je réponds en mon nom et pas celui de Oui. Regretter Georges Bataille, c'était une autre époque, c'était le surréalisme, c'était une apologie de la cruauté qui avait son esthétique et qui n'a évidemment plus de sens aujourd'hui. Ce que je voudrais dire sur les spectateurs voyeurs, je n'interprète pas, moi, le regard de ceux qui rejettent la corrida en disant qu'ils projettent, qu'ils font je ne sais trop quoi, de l'introjection, qu'ils se mettent à la place du taureau. Je n'interprète pas. Pourquoi interprétez-vous notre regard en disant qu'il dissimule, qu'il est voyeur, qu'il est pervers, qu'il cache des bas instincts et autre chose bien plus abominable que j'entends ? Non, je vous dis, nous, et je parle au nom de, pas simplement moi, mais de tous ceux que je connais et des gens du peuple, comme vous dites, qui ne vont pas pour se repaître d'un spectacle cruel, mais qui vont, je le répète, pour admirer. Et quand même, parlons un petit peu de ce spectacle. Vous me reprochez d'avoir suivi une voie, disons, plus apollinienne que dionysiaque. Eh bien, je dirais que la corrida nous offre deux types de plaisir esthétique. Car il faut quand même en parler. Nous n'allons pas, encore une fois, aux arènes pour autre chose. Elle nous offre sans doute quelque chose qui relève du dionysiaque et que je préfère appeler du sublime, au sens que ça avait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la grandeur, de la démesure, d'une perception que nous n'arrivons même pas à comprendre, c'est-à-dire à, adapter aux limites de notre perception. Ça, c'est en effet la corrida, la violence du taureau, l'espèce de ballet, ces premières impressions dont parlait tout à l'heure Alain Finkielkraut et dont je me souviens moi-même, ça relève de l'esthétique du sublime. Mais en revanche, le toreo, c'est-à-dire la geste du torero face au taureau lorsqu'il conduit cette charge, lorsqu'il l'amène, lorsqu'il la ralentit, lorsqu'il la courbe, lorsqu'il lui donne, lorsqu'il oppose cet ordre qu'il met au désordre de la charge, lorsqu'il transforme ce chaos en espèce d'harmonie, ça relève de l'esthétique apollinienne, ça relève de l'esthétique du beau. Et c'est ces deux types d'esthétique opposées, en effet, l'esthétique que vous appelez dionysiaque et j'appelle l'esthétique du sublime, du spectacle, avec son côté extraordinairement théâtral, voire parfois jusqu'au ridicule, avec c'est en effet l'esthétique du sublime, et par moments, ce qui nous émeut aux larmes, ce qui nous bouleverse jusqu'au plus profond de nous, ça relève de l'esthétique la plus classique, de l'esthétique apollinienne du beau.
Elisabeth de Fontenay, je veux dire quelque
Je voudrais dire que il y a un problème entre nous que je prévoyais, c'est que il y a un conflit de faits. Quand vous me dites que le taureau n'est jamais tué, agenouillé, il se trouve que j'ai lu des rapports disant que ça arrivait. Donc c'est...
Montrez-les-moi.
Bon. Mais ce que je voudrais, puisque vous me parlez d'esthétique, d'esthétique à la fois dionysienne et apollinienne. Je voudrais vous lire une phrase de Delacroix. Delacroix a peint des toreros et n'a jamais peint de corrida. Et il a écrit, Francis Wolff, « Là où coule le sang, l'art est impossible ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors je réponds tout à fait.
Francis Wolff.
Vous avez tout à fait raison. La question de savoir si la corrida est un art est une question essentielle, à laquelle d'ailleurs je me suis beaucoup intéressé. Et j'ai dit que la corrida était moins qu'un art et plus qu'un art. Et comment je vais justifier ça en quelques mots, c'est en effet moins qu'un art parce qu'il n'y a pas la distance de la représentation, il n'y a pas la distance imaginaire, nous sommes tout à fait d'accord, qu'il n'y a pas la création d'une œuvre, mais au fond c'est le cas des arts de la performance, oui. Qu'il n'y a pas, qu'on pourrait dire simplement c'est une esthétisation de la violence. Bien entendu, de ce point de vue-là, c'est moins qu'un art parce que c'est toujours menacé par la réalité de la blessure, de la mort. Donc c'est moins qu'un art, encore qu'aujourd'hui tout soit possible. Mais je dirais que c'est aussi plus qu'un art, dans la mesure où c'est aussi un spectacle, c'est aussi un rite, c'est aussi un sport, c'est aussi quelque chose qui, en quelque sorte, s'adresse à la totalité de nos sens et qui, en quelque sorte, dépasse ce cadre étroit. On peut voir la corrida comme un art, n'est-ce pas ? On peut la réduire à cette dimension esthétique, mais il y a une dimension éthique essentielle, et j'y reviendrai, qui fait que l'arc et la corrida n'est pas possible sans sa dimension de combat, et que le combat n'aurait pas de sens sans sa dimension esthétique.
Alors, justement, vous parlez de dimension éthique, Francis Wolff, et vous, dans votre livre « Philosophie de la corrida », vous énoncez les 10 commandements du torero, et vous opposez, terme à terme, cette morale aristocratique, voire héroïque, à la morale universaliste et démocratique, et selon laquelle, fort heureusement, nous vivons. Mais il me semble que ce faisant, vous explicitez assez bien le plaisir de la corrida, ou en tout cas celui que moi-même j'ai éprouvé. Je ne crois pas que c'ait été un plaisir de voyeur. Je dirais deux choses. Il y a un des articles de cette morale qui m'a beaucoup ému et qui peut nous amener à réfléchir sur nous-mêmes. « Tu seras tel que tu te montres », dites-vous, par rapport à une morale où il faut être soi-même. Et ça rappelle Machiavel, « Parais ce que tu souhaites être », et cette très belle phrase de Hannah Arendt, « L'homme courageux est l'homme qui a décidé que ce n'est pas le spectacle de la peur qu'il veut donner. » Et deuxième chose, moi, qui m'a bouleversé dans ce spectacle, effectivement, la forme, le rôle de la forme. C'est un rituel et c'est l'imposition d'une forme à une matière brute, voire à une matière sauvage. Et nous vivons quand même une époque de très grande déformalisation. Les sports, autrefois, appartenaient au monde de la forme. Ils appartenaient à l'empire de la forme. Or, aujourd'hui, le sport est de moins en moins un exercice de la maîtrise de soi, et on le voit très bien dans le tennis, où les champions font des bras d'honneur, etc., etc., se couchent quand ils ont gagné, demandent qu'on les applaudisse. Donc, il y a, si vous voulez, un formalisme dans la corrida auquel, me semble-t-il, on peut être d'autant plus attaché qu'aujourd'hui, la forme se perd. Voilà, et ça, c'est le dernier mot que je dirais, peut-être en faveur de la corrida, car ensuite, j'aurai une question plus critique à poser à Francis Wolff. Élisabeth de Fontenay.
J'ai du mal à accepter que Francis Wolff parle de dimension éthique à propos de la corrida, à propos de la torture, je maintiens le mot, et de la mise à mort spectacle. D'autant que il me semble que cette référence, qui est la plus importante à mon avis dans vos livres, cette référence au stoïcisme, au courage stoïcien, elle date. Cet humanisme-là, pour moi, j'ai presque envie de rire en le disant, cet humanisme-là, pour moi, date terriblement. Il est périmé. Il est périmé à cause des crimes du XXe siècle et à cause d'une certaine conversion philosophique, d'une certaine orientation philosophique nouvelle que vous n'êtes pas obligé de partager, bien entendu, et vis-à-vis de laquelle j'ai moi-même parfois des réticences. Mais une conversion à une conception de l'homme plus passive, moins dans la maîtrise, moins dans la domination, moins dans un certain humanisme métaphysique. Et Francis Wolff, voilà, vous êtes. Je vous redis que vos métaphores philosophiques sont très belles. Elles sont beaucoup plus belles à mes yeux que ce qui a été écrit avant sur la corrida. Mais il reste que je suis malheureuse de voir que votre légitimation de la corrida en passe par. Bon, vous êtes philosophe de la Grèce. Vous vous référez aux philosophes grecs, bien entendu. C'est votre droit et c'est votre excellence. Mais enfin, en ce qui concerne, je reviens, en ce qui concerne le stoïcisme, il y a quelque chose qui déjà a été dénoncé par Nietzsche de façon tout à fait pertinente.
Francis Wolff.
Alors je m'appuie sur le stoïcisme, je m'appuie aussi sur d'autres philosophes grecs, il m'arrive aussi de m'appuyer sur des philosophes contemporains.
Mais c'est l'éthique, hein, je parle de l'éthique, je ne parle pas de...
Oui,
Aristote, c'est très beau.
Alors... concernant, d'abord, je voudrais ajouter quelque chose à ce que disait Alain Finkielkraut il y a quelques minutes sur « Tu seras tel que tu te montres ». Il y a quelque chose qui est profondément éthique, et ce qui ne signifie pas qui obéisse aux lois universalistes humanistes, mais qui est profondément éthique dans la corrida, c'est le fait qu'on met l'image, que le torero met l'image de soi au-dessus de la conservation de soi-même. Et c'est le fond de son comportement. C'est le fond de son comportement. Opposer son immobilité à la mobilité du taureau, ne pas transmettre ses sentiments, son émotion, sa peur, ne pas en être victime, être maître de soi, en effet, c'est daté, vous avez raison. Et c'est précisément parce que c'est daté que je le défends dans l'arène. C'est précisément parce que c'est archaïque, c'est précisément parce que nous n'avons pas à nous plier à cette morale qui a été héritée, en effet, de l'aristocratie du XVIIIe siècle, qui, en effet, était héritière d'une certaine sagesse antique. C'est précisément pourquoi je la défends dans l'arène, et c'est pourquoi nous retrouvons quelque chose de profondément ancré en nous, en notre sagesse, dans l'arène, et qui n'a de sens que dans l'arène. Et si vous voulez, mettre l'image de soi au-dessus de la conservation de soi, je vous citerai un philosophe qui n'était pas stoïcien, qui est Saint-Vincent de Paul, et qui disait « Me croyez-vous assez égoïste pour préférer ma vie à moi-même ?» Eh bien, c'est l'éthique du torero et c'est l'éthique de José Thomas, puisqu'il en a été question plusieurs
oui,
fois.
Oui, et puis il me semble que Hannah Arendt, définissant le courage, le faisait... disons que ça a un écho avec la morale ou l'éthique dont vous parliez, Francis Wolff, et on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas tenu compte du XXe siècle. Je crois que cette espèce de réhabilitation des apparences, ce renversement du rapport de l'être et du paraître, je pense, moi, qu'il a une certaine actualité. Mais j'aurais là, Francis Wolff, une perplexité à faire valoir. Parce que il y a des choses qu'on ne voit plus dans la corrida, mais qu'on voyait et qui, visiblement, ne dérangeaient personne, ne dérangeaient pas les aficionados. Et certains aficionados disent, d'ailleurs, c'est le début de la fin maintenant qu'on ne le voit plus. C'est le sort fait au cheval. Parce que moi, j'ai aimé le miroir de la tauromachie de Léris, même sa définition érotique de la corrida, mais quelque chose m'a heurté, cette phrase où il dit « Au taureau la mort noble, qu'il reçoit à coup d'épée, aux chevaux, le rôle passivement éventré, le rôle de latrine. » Voilà le terme qu'il utilise, parce qu'en effet, les chevaux des picadors n'étaient pas protégés, comme ils sont carapaçonnés aujourd'hui, et donc ils mouraient. Et la description d'Hemingway, dans un livre par ailleurs très beau, « Mort dans l'après-midi », est absolument insoutenable. Parce qu'en effet, il va jusqu'à dire que la mort du cheval est comique. Et elle est comique, pourquoi ? Voici ce qu'il dit. « Il n'y a certes rien de comique selon nos critères habituels à voir un animal vidé de son contenu viscéral, mais si cet animal, au lieu de faire quelque chose de tragique, c'est-à-dire empreint de dignité, galope avec un air roide de vieille demoiselle autour d'une piste en traînant le contraire des nuées de la gloire derrière lui, c'est aussi comique lorsque ce qu'il traîne est réel que lorsque les Fratellini en donnent une parodie burlesque où les viscères sont représentés par des rouleaux de pansements, des saucisses et d'autres choses. » On ne peut plus lire ça aujourd'hui sans être scandalisé. Donc, cette cruauté existait, elle ne gênait pas les aficionados. Alors, est-ce que ça dit quelque chose de l'essence de la corrida aussi ?
Alors, évidemment, ces choses, ces phrases, aujourd'hui, ont perdu non seulement tout leur sens, elles nous révoltent, elles me révoltent tout autant. Je rappelle que les chevaux sont carapaçonnés depuis les années 20, c'est-à-dire depuis Primo de Rivera, et que ni moi, ni la génération antérieure n'a vu ces regrettables et abominables spectacles dont... Hemingway fait, si ce n'est l'apologie, du moins traite avec certains mépris. Est-ce que ça dit quelque chose de la corrida ? Ça dit quelque chose de l'évolution des sensibilités. Ça dit le fait qu'il y a une ou deux générations, nul dans les campagnes ne se scandalisait des cris du porc que l'on tuait, quand on tuait le cochon, et que... effectivement, les sensibilités ont évolué. Je rappelle, cependant que les sensibilités ont... c'est au moment où se vote en France la loi Gramont, en 1850, que la corrida est introduite en France. Et la loi Gramont a été introduite pour défendre les chevaux, essentiellement, qui étaient maltraités dans les villes par leurs cochers. Alors, il est d'ailleurs comique de voir que c'est l'hypophagie au XIXe siècle qui a sauvé les chevaux et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les groupes de défense, ou prétendus groupes de défense des animaux, sont en train d'en finir avec les chevaux en interdisant l'hypophagie et en réduisant le cheval à un animal de compagnie. Mais c'est un autre problème. Donc, en effet, la corrida, elle a une essence, une constante, qui sont en effet les trois tiers, qu'on appelle les piques, les banderilles et le duel, et la mise à mort en public, que je défends, que nous défendons tous, et les autres choses ne font pas partie de son essence.
Alors, j'aurais peut-être une ultime question à poser à l'un et à l'autre. Vous avez parlé de la loi Gramont. Elle a été votée en 1850 et elle punissait d'amende et de prison ceux qui exercent publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. Les taureaux ont été considérés comme des animaux domestiques puisque, disait un arrêté de 1895, le taureau subit la domination de l'homme et sélectionné par lui est élevé dans les pâturages clos et en fait reçoit sa nourriture de lui. Mais un vote en 1951 a ajouté un alinéa à la loi Gramont. La présente loi n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition ininterrompue peut être invoquée. On a, disons le CRAC précisément, a fait un recours auprès du Conseil constitutionnel pour demander l'interdiction de la corrida. Cette interdiction, le Conseil constitutionnel n'a pas suivi. Donc la corrida reste autorisée dans le sud de la France, à Nîmes par exemple. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Et là, je me tourne vers vous, Elisabeth de Fontenay. Vous dites que vous soutenez le CRAC. Considérez-vous que c'est une cause essentielle et qu'il faut continuer à militer pour l'interdiction de la corrida sur tout le territoire français, voire en Espagne un jour?
C'est une des causes essentielles. Et je pense que nous avons perdu au Conseil constitutionnel. Je respecte.
Ah, vous dites nous.
Oui, je dis non, puisque j'ai signé pour le CRAC. Nous avons perdu. Je respecte la décision d'une instance de la République et nous irons devant d'autres cours et nous gagnerons un jour. Mais je voudrais en revenir parce que je suis très, très émue par ça, très, très bouleversée par ça, par cette défense que vous faites l'un et l'autre du beau geste, de l'apparence. Et vous allez même jusqu'à vous référer à Hannah Arendt, ce qui est tout à fait fou à la Winkelkraut. C'est une morale, c'est exactement ce qu'on appelle « je n'y suis pas insensible, j'ai été élevé là-dedans ». C'est ce qu'on appelle la morale aristocratique. C'est ce qu'on appelle l'honneur militaire. C'est ce qu'on appelle l'honneur du nom. La philosophie m'a fait rompre avec ça. Voilà. Donc je ne peux pas accepter votre immense système de justification éthique vous référant à ces valeurs dont je continue à dire qu'elles sont périmées, non pas qu'il ne faille pas avoir le sens de l'honneur, j'essaie de l'avoir, mais qu'il faille comprendre que ce modèle de virilité, de courage, de maîtrise est un modèle qui a fait son temps et qui a fait son temps précisément à cause des crimes du XXe siècle.
Et quand même, Elisabeth, la résistance avait à voir avec l'honneur, quand même.
Exactement. C'est pour ça que je ne renonce pas.
Mais c'est donc le XXe
siècle. Vous allez mettre la résistance sur le même plan que la corrida.
Non,
mais on devient fou.
Mais non, c'est vous qui allez me rendre fou. L'honneur. Vous dites l'honneur a été périmé par le XXe siècle. Oui, je dis, s'il n'y avait pas eu d'honneur pour les résistants, il n'y aurait pas eu de résistance. Oui, donc l'honneur n'a pas été périmé par le XXe siècle.
C'était avant la connaissance des crimes, si vous permettez.
Francis Wolff.
Dans toute attaque contre la corrida, une chose m'est insupportable, c'est qu'on invoque les grands crimes du XXe siècle. Ça n'est pas permis. Je réagis au mot de torture avec indignation, je réagis à cette assimilation avec dégoût. J'ai plus d'un motif, et pas simplement personnel, d'être dégoûté par ce genre d'assimilation. Les mails que je reçois ne peuvent pas ne pas me toucher à la fin. S'il faut conclure, je dirais simplement ceci. Il est possible qu'un jour, Elisabeth, vous et vos amis, gagniez et que la corrida soit interdite. ne vous réjouissez pas trop vite ce jour-là. J'espère être mort ce jour-là. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. L'humanité n'a pas à y gagner grand-chose. Et l'animalité peut y perdre, je veux dire. Que restera-t-il pour peupler les rêves de l'humanité, de son autre qui est l'animal, de son autre parfois redoutable, parfois nuisible, parfois admirable, lorsqu'il ne restera plus pour peupler ses rêves que des chats sur des moquettes à qui on aura coupé les ongles et coupé les couilles, et que la seule relation que les hommes noueront, en tout cas dans nos chaumières, et pas en Afrique, et pas là où on sait encore ce que c'est que l'animal redouté ou l'animal nuisible, que restera-t-il des rêves de l'humanité ? Nous l'aurons, et je le crains, vous les aurez appauvris. La corrida est un des lieux où se joue encore un rapport réel, risqué, humain avec l'animalité.
Bien, mais écoutez, nous terminerons là-dessus. C'est malheureusement une fin, si vous voulez, un peu brutale, parce que je suis sûr qu'Élisabeth de Fontenay aurait eu de nombreuses choses à vous dire. Francis Wolff, je renvoie à vos deux livres, à deux de vos livres, Le silence des bêtes d'Élisabeth de Fontenay, La philosophie à l'épreuve de l'animalité, précisément, et Philosophie de la corrida, Francis Wolff. Les autres références bibliographiques, vous les trouverez sur le site franceculture.fr, où vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger désormais pendant un an. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Que veut la Chine ?». Mes invités seront Alain Frachon et François Godemant. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Viviane Noël. À la technique aujourd'hui, Bruno Martin. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.